Bonjour, nouvelle vie. Quelle joie d'être avec vous. Bonjour toi qui nous regardes devant ton écran. C'est vraiment un privilège d'être ici. Je ne sais pas si vous réalisez le privilège que nous avons de nous retrouver ensemble. Je ne sais pas si vous réalisez le privilège que nous avons d'avoir accès à Dieu, d'avoir accès au trône de Dieu, d'avoir accès à la grâce de Dieu ce matin, d'avoir accès à la puissance de Dieu. Tout ceci est disponible pour toi ce matin. Et juste avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse remercier l'équipe d'adoration, Jean-Daniel, toute son équipe. Est-ce qu'on peut les remercier? Ils ont fait un travail extraordinaire. Est-ce qu'on peut remercier aussi tous les techniciens, les bénévoles qui nous servent dimanche après dimanche? Poussez un cri plus fort qu'ils puissent vous entendre jusqu'au stationnement. J'aimerais qu'on puisse remercier aussi Pasteur Claude, tout ce qui prend place à Nouvelle-Ville, les campus, tous les pasteurs de campus. Qu'ils puissent vous entendre là, à l'arrière plus fort encore. Il y a de la vie dans la maison de Dieu. Et mon message ce matin, je vais parler de course, de gagner la course. Amen. Est-ce qu'il y en a dans ce lieu des sportifs? Est-ce qu'il y en a dans ce lieu des gens qui aiment courir? OK, je vais avoir peut-être plus de succès. Est-ce qu'il y en a que vous détestez le sport? Est-ce qu'il y en a que c'était votre objectif 2024 et vous avez échoué? Je veux juste vous dire que moi, de par nature, quand j'étais jeune, je n'étais pas une sportive. J'étais la dernière à être choisie au ballon chasseur. Mais depuis quelques années, j'ai trouvé un endroit, un gym où ça me stimule et j'ai commencé à m'entraîner vraiment quand je peux 3 à 4 fois semaine. Ah, bravo, merci. Ah, c'est pas fini. Je veux juste, peut-être ça va vous impressionner, peut-être je vais vous surprendre. Savez-vous que j'ai déjà couru un marathon? Ah, dis à ton voisin, ta voisine, n'a pas l'air de ça le pasteur ce matin. Hein? Et regarde, j'ai couru un marathon. Et j'ai même obtenu une médaille. Bon, faut que je sois honnête avec vous. J'ai couru un marathon, mais je l'ai couru en 1 mois. Mais j'ai quand même couru 10 km par jour. Et c'est ça la course de la vie. Dieu nous appelle à courir chaque jour un peu plus pour remporter le prix de la vocation céleste. Dieu nous appelle à gagner la course. Et c'est juste le passage que je veux partager, c'est dans Philippiens. Et juste avant, Paul va dire, dans Philippiens que Dieu a commencé une bonne œuvre en nous et il va la rendre parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors, dans cette course de la vie, nous ne sommes pas seuls. Et le texte que je vais développer, c'est dans Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Ça dit, « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. » C'est Paul qui va parler. « Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue de courir pour tâcher de saisir le prix. » Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Et j'ai utilisé la version sommaire parce que j'aimais, dans la version traditionnelle, tu as dit « je poursuis, hein, je cours vers le but », mais la version sommaire nous dit « je tends toute mon énergie vers ce qui est devant moi ». Parce que courir la course de la vie, c'est du travail. Courir la course de la vie demande des efforts. Et ça dit par la suite, hein, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Dans cette course de la vie, juste en commençant, je veux te rappeler que Dieu a un appel sur ta vie. Dieu a une destinée pour toi. Dieu a des rêves, Dieu a des plans. Jésus a dit qu'il était venu pour que nous ayons la vie. Et le terme vie, c'est pas la vie physiologique, c'est le terme zoé, l'existence et qu'il est venu pour que nous ayons notre existence, que toute notre vie soit en abondance. Et dans ce passage-là, Paul va comparer la course de la vie à une course olympique. Et en fait, quand on regarde une course olympique, c'est que ça nous prouve que ça demande de l'endurance. Ça demande du travail, mais que Dieu est avec nous dans cette course-là. Et on va partager ensemble ce matin deux clés qui tirées du texte pour nous aider à remporter la course de la vie. Est-ce que vous êtes avec moi, Nouvelle Vie? Est-ce que tu es avec moi devant ton écran? Deux clés, si tu prends des notes. La première clé, Paul va nous dire, oubliant ce qui est en arrière. Pour aller vers l'avant, tu dois ne plus regarder en arrière. Ça a l'air simple. On est tous d'accord que lorsque je cours, peu importe, sur un tapis ou dans la vie, c'est plus compliqué de courir quand je regarde en arrière. On comprend ça. Quand on conduit la voiture, c'est plus compliqué de conduire une voiture quand je regarde dans le rétroviseur. Et je te dis ce matin, là où tu regardes, c'est là où tu vas aller. Là où tu regardes, c'est là où tu vas aller. Et il y a une femme dans la Bible qu'on appelle la femme de Lot. On ne connaît même pas son prénom, mais elle s'appelle la femme de Lot. Et Jésus, dans l'évangile de Luc, va nous dire, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Et c'est juste fascinant parce que il y a 170 femmes dans la parole de Dieu. Jésus aurait pu nommer des grandes héroïnes de la foi, des Déborah, des Esther, des femmes qui ont marqué. Il aurait pu parler de Marie, sa mère. Il aurait pu parler de plein de femmes. Mais il va dire, alors qu'il fait un discours à ses disciples sur la fin des temps, dans l'évangile de Luc, tu peux trouver ça, au chapitre 17, verset 32, alors qu'il va parler de la fin de la course, comment on doit finir la course là, proche de la fin des temps, il va dire aux disciples, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Si Jésus prend la peine de mentionner cette femme, c'est qu'il y a une leçon importante qu'on peut en tirer. Il va dire, par exemple, tu vas dire, mais non, c'est la femme qui a versé le parfum aux pieds de Jésus. Jésus va dire, on va se souvenir de ce que cette femme a fait. Mais de la femme de Lot, c'est la seule qui dit, regardez ce qu'elle a fait et tirez des leçons. Est-ce qu'il y en a où vous êtes familiers avec la femme de Lot? Est-ce que oui? Mais peut-être pour ceux qui sont moins familiers, je vais juste vous mettre dans le contexte. En fait, La femme de Lot était mariée à Lot, bien sûr, et Lot était le neveu d'Abraham. Lot, sa femme, ses enfants vivaient dans une ville qui s'appelle Sodome et Gomorre, d'où le nom qu'on parle encore aujourd'hui. Et à cause de la déprivation, à cause de la désobéissance des gens de cette ville, Dieu voulait détruire la ville. Mais par amour pour Abraham, il va envoyer des hommes, des anges, aller avertir Lot et sa femme de sortir de cette ville pour ne pas être détruits. Et le texte se trouve dans Genèse chapitre 19, versets 15 à 25. Ça dit, « Une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit, « Sauve-toi, il va de ta vie. » Il va parler à Lot et à sa famille. « Ne regarde pas derrière toi. » Et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. Au nom de mon Seigneur, lui dit Lot, ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon envers moi en me sauvant la vie. Je ne pourrai pas m'enfuir jusqu'à la montagne. Je risque d'être atteint par le malheur et de mourir. Et là, il va plaider avec l'homme. Il va dire, il y a cette ville là-bas. Elle est assez proche pour que j'aille m'y réfugier. Elle est insignifiant. Permets-moi de fuir jusque-là pour sauver ma vie. Et c'est ce qui va arriver. Ils vont fuir et ils vont aller dans cette ville. Lot va partir. Et cette ville s'appelait la ville de Tsoar, qui veut dire peu de choses. Et la suite du texte nous dit, au moment où le soleil se levait, Lot arrivait à Tsoar, dans cette ville peu de choses. Alors l'Éternel fit venir une catastrophe sur la ville. Il a détruit la ville. Et finalement, ça dit, toute la population de cette ville périt. Mais la femme de Lot, en voulant s'enfuir, regarda derrière et elle fut changée en statue de sel. Cette leçon est extrêmement importante. Parce que cette femme-là, parce qu'elle a regardé derrière elle, elle a complètement manqué sa destinée. Dieu a plus que manqué. Sa destinée s'est arrêtée. Dieu avait des projets pour elle. Dieu avait des projets pour sa maison. Dieu voulait les protéger. Mais parce qu'elle a regardé derrière elle, tout s'est arrêté. Elle était figée. Entre vous et moi, je sais que vous, vous êtes extrêmement spirituel. Mais peut-il nous arriver à chacun et chacune d'entre nous, et toi qui nous regardes devant ton écran, de se comporter comme cette femme? Pourquoi la femme de Lot a regardé derrière elle? Moi, j'aime lire la parole de Dieu, je me pose la question, à quoi qu'elle a pu penser? Est-ce que, on sait que Lot était riche, est-ce que dans Sodome et Gomorrhe, elle avait une belle maison, une belle position, une toutes sortes de richesses, et que lorsqu'il fallait qu'elle laisse ça et qu'elle court vers la ville de refuge qui s'appelait Tsoar, qui veut dire insignifiant, elle a trouvé que j'aime mieux mon confort, j'aime mieux ne pas entendre ce que Dieu me demande, parce que devant moi, c'est peut-être insignifiant. Peut-être qu'elle a regardé derrière parce qu'elle était déçue. Et juste avant d'aller sur la déception, je vais m'arrêter puis je vais être obéissante au Seigneur. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ce lieu. Dieu t'appelle à aller plus loin avec lui. Dieu t'appelle peut-être à un ministère, à quelque chose. Il te dit aujourd'hui, ne regarde pas derrière et ne pense pas que ce qui est devant, c'est insignifiant. Parce que moi, j'ai quelque chose de plus grand pour toi. Peut-être que c'est un business, peut-être que c'est retourner à l'école. Fais un pas de foi et va vers l'avant. Mais elle a peut-être regardé derrière parce qu'elle était déçue. Elle a peut-être regardé derrière parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi Dieu lui demandait ça. Et chacun, chacune d'entre nous, et moi je m'inclus dans ça, lorsqu'on vit quelque chose de difficile, lorsque peut-être qu'on a été blessé, lorsque peut-être on vit une injustice, on reste derrière. Dites « Amen » avec moi. Que quelqu'un soit en aide. Dites « Tu n'es pas la seule, Stéphanie. Lève ta main où tu es. » « Amen! » Ça me fait du bien. Je vais aller de ce côté-ci. J'ai quelqu'un qui connaît ici, là. Peut-être qu'on regarde derrière parce que c'est vrai qu'on a été traité injustement. Peut-être qu'on regarde derrière parce qu'on a une relation, une rupture amoureuse et ça fait mal. Et quand on souffre, des fois, on préfère notre souffrance qu'on connaît que ce qu'il y a devant. Et quand on est dans la souffrance, ça distorsionne notre foi et on a l'air, ça a l'air petit. Tout ce qu'il y a devant a l'air sans espoir. C'était mieux avant que maintenant. Mais le Seigneur avait quelque chose de mieux pour cette femme. Et pour monter dans notre, pour marcher la course de la vie, tu dois regarder devant. Et j'aime ce texte dans Ecclésiaste qui dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sur les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour se lamenter. On est tous regardés derrière. Mais je crois de tout mon cœur, alors que je me préparais pour ce message, je crois avec l'amour et la compassion que j'ai, que quelqu'un dans ce lieu, Dieu te dit, c'est comme s'il te prenait la tête et te dit, tourne ta tête et va devant. Ce n'est pas insignifiant que ce que j'ai pour toi. C'est peut-être douloureux, c'est peut-être injuste, c'est peut-être tout ça, mais le temps est venu de regarder vers l'avant. Et Dieu va marcher avec toi sur ce chemin-là. Dans deux, la parole de Dieu est tellement riche avec une promesse extraordinaire. Deutéronome, chapitre 31, verset 8, ça dit, « L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer par ce qui est devant. » Amen. Vous êtes avec moi pour gagner la course de la vie. Première clé, oubliant ce qui est derrière toi. Tu dois oublier avec amour ce qui est derrière toi et te porter vers ce qui est devant toi. La deuxième clé, c'est surmonte ce qui est devant toi. Et la suite du texte nous dit, « Tendant toute mon énergie, j'avance vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix. » Et le terme « poursuivre » utilisé par Paul, ça signifie « continuer sans relâche ». Continuer, j'oublie ce qui est derrière moi et je cours sans relâche vers ce qui est devant moi. Mais si on est honnête, c'est des fois on court et on fait face à des obstacles. Regardez, quand tu es sur la course de la vie, si on peut mettre la diapositive, on veut courir, on veut avancer et on a l'impression qu'on est face à quelque chose qui est insurmontable. Et tu veux courir, mais tu es face à quelque chose qui est qu'un obstacle. Et encore pire, quelque chose qui est difficile à surmonter. Mais le pire du pire, c'est que quand tu as essayé de surmonter l'obstacle, puis tu n'y arrives pas. Et quand tu as réessayé, puis tu as réessayé, puis tu n'y arrives pas encore, ça s'appelle un échec. L'échec, les échecs, échouer, peut nous ralentir dans la course de la vie. Et lorsqu'on échoue, lorsqu'on a l'impression d'échouer, lorsqu'on a littéralement échoué, dans toutes sortes de facettes de notre vie, on peut se sentir écrasé sous le poids de l'échec. J'ai écrit dans mes notes un peu d'humour parce que échouer, c'est pas facile. Qui aime échouer? Il y a une citation de Nelson Mandela. Là, je fais une thérapie, ça me fait du bien. À chaque fois, je la vois. Quand même, grand respect pour Nelson Mandela. Mais à chaque fois que je la lis, ça dit « Je n'échoue pas, j'apprends. » Ben moi, j'aimerais mieux apprendre sans échouer, tu vois? Et je fais des blagues parce que l'échec fait partie de la vie. Mais vous savez, il y a des échecs qui font plus mal que d'autres. On est d'accord. Par exemple, il n'y a rien de mieux pour parler d'échecs au mois de février. Je suis sûre que j'ai un public extraordinaire. Qui a pris des résolutions en janvier? Ah, mais levez, allez, l'authenticité, OK, on est correct. Qui a échoué dans ses résolutions 18 février? Je lève ma main aussi. Peut-être que tu dis cette année, comme j'ai dit en début du message, cette année, c'est mon année, je m'inscris à un gym. Et je ne suis pas allée. Je suis inscrite, mais je ne suis pas allée. Peut-être que tu dis, cette année, je vais manger moins de sucre. J'ai quelqu'un proche de moi là, qui a pris cette résolution-là, là, qui n'a pas tenu encore, tu vois. Je nommerai personne. Et c'est sûr que c'est des échecs. Et ça fait peut-être moins mal que certaines autres. Et j'espère que ce message-là va t'encourager parce que c'est vraiment le cœur du message. Oublier ce qui est derrière, me porter ce qui est en avant et surmonter avec énergie peut-être un échec que j'ai eu. Et j'espère stimuler quelqu'un de dire, oui, il n'est pas trop tard en février pour commencer à relever un défi. Amen. Mais je veux parler d'échec. Ça peut être aussi échouer qui fait mal. Échouer un examen. Peut-être quelqu'un dans ce lieu t'avait échoué un examen pour entrer à l'université. Peut-être que c'est échouer à une entrevue. Peut-être que c'est échouer dans des relations amoureuses. Est-ce qu'il y a des célibataires dans ce lieu? Levez la main bien haute. Plus haute que ça. Pour qu'on puisse vous identifier, c'est le temps maintenant, voilà. Et tu es peut-être célibataire, tu avances en âge, puis tu dis, moi, j'ai échoué d'une relation à une autre. Peut-être que c'est dans ton couple. C'était la Saint-Valentin mercredi. Et là, tu sais, on a eu un week-end extraordinaire avec Nancy Benoît sur les couples, les relations chéries, avec JP. C'était juste fantastique. Et là, tu te dis, oui, notre couple, on va investir. Puis tu es arrivé à Saint-Valentin, puis patate, échoué. Ça a fini en galère. On regarde personne, OK? Peut-être que tu te dis, j'ai investi dans mon couple, j'essaye, puis c'est encore un échec. Peut-être que c'est dans une dépendance. Peut-être que tu veux arrêter une dépendance de toutes sortes. Puis tu dis, je veux, mais je ne suis pas capable. Peut-être que c'est comme parent, tu regardes, tu dis, oh my God, j'ai-tu échoué, moi, quand j'ai élevé mes enfants? Qu'est-ce que j'ai fait? Des fois, on a l'impression d'avoir échoué. Des fois, on a l'impression d'être un échec. Et des fois, on a l'impression que peut-être des personnes autour de nous, c'est un échec. Et ça, c'est un piège de l'ennemi. Parce que face à l'échec, tu as une décision à prendre. Tu peux rester assis, paralysé, ou prendre toute ton énergie et te porter vers l'avant. Et je veux le dire haut et fort ce matin à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Un échec dans la vie ne veut pas dire que l'échec, que ta vie est un échec. Un échec dans la vie n'est pas l'échec de la vie. L'échec est un détour et non une impasse. Une impasse. Raté ne veut pas dire que tu es un raté ou que tu es une ratée. Un mauvais chapitre ne signifie pas la fin du livre. Amen. Michelle Obama a fait une citation que j'ai aimée. Elle dit, « L'échec est un sentiment bien avant d'être une réalité. » C'est le fruit de la combinaison entre la vulnérabilité et le manque de confiance en soi qui s'aggrave suite à la peur. Amen. L'échec, bien souvent, mes amis, c'est un sentiment. Bien sûr qu'il y a des faits, mais la Bible nous dit que si je confesse mes fautes, il est fidèle et juste pour me les pardonner. Et je peux attendre tous les jours recommencer et avoir accès à sa grâce. Thomas Edison est un célèbre inventeur. Il a inventé, autodidacte, il a inventé l'ampoule électrique. Et il a écrit, beaucoup d'échecs dans la vie proviennent de gens qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès lorsqu'ils ont abandonné. Je répète, c'est trop bon. Moi, ça me bénit. Beaucoup d'échecs dans la vie proviennent de gens qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès lorsqu'ils ont abandonné. Amen. Et quand je lisais sur Thomas Edison, un scientifique connu, savez-vous que Thomas Edison a été expulsé de l'école à l'âge de 8 ans? Et l'enseignante qui l'a expulsé, elle a dit qu'elle le considérait comme un élève stupide, brouillon, qui n'apprenait pas assez rapidement. Alors, la professeure, lorsqu'elle a sorti de son cours, elle lui a remis une lettre cachetée que Thomas Edison devait donner à sa mère. Alors, imaginez-vous, le pauvre Thomas, expulsé de l'école, arrive à la maison et donne la lettre à sa maman. Alors, la maman a ouvert la lettre. Elle a lu devant son fils. C'était écrit sur la lettre, « Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et nous n'avons pas assez de bons professeurs pour lui enseigner. Veuillez lui enseigner vous-même. » Des années plus tard, lorsque Thomas Edison, sa mère était décédée, et lorsqu'il a vu une boîte de souvenirs, il a retrouvé la même lettre qu'il avait apportée à sa mère. Et savez-vous ce qui était réellement écrit sur cette lettre-là? Ça disait, « Votre fils est brouillon, il pose trop de questions, on détecte qu'il y a une maladie mentale, nous ne sommes pas d'accord qu'il revienne à l'école. » Et Thomas Edison a écrit, Edison est un enfant pourri et stupide, mais grâce à une mère qui croyait en lui, il est devenu un génie. Dieu change la lettre de ta vie aujourd'hui. Peut-être que tu penses que tu as échoué. Peut-être que tu penses que tu es un échec. Mais Dieu ne te voit pas comme ça. Dieu t'aime d'un amour éternel. Dieu a de la bonté pour toi. Dieu croit en toi. Il change la lettre. Il veut te faire remporter la course ce matin. Ne te laisse pas arrêter par un échec. Paulo Coelho a dit, et c'est tellement beau, il a dit, « Seul est vaincu celui qui renonce. » Tous les autres sont victorieux. Alors, si ce matin, tu as baissé les bras, relève-la pour te retrousser les manches et continuer d'avancer et continuer de croire que Dieu peut encore agir dans ta vie, que Dieu peut encore agir dans ta maison, que Dieu peut encore agir dans tes finances, que Dieu peut encore agir à ton travail. Alléluia. Il veut te faire remporter la course de la vie. Il est là pour te faire surmonter les échecs. Et je vais terminer avec un passage des Écritures. Vous savez, d'un couvert à l'autre, des fois on lit la Bible, on regarde les héros de la foi. Et quand on les regarde de plus près, la plupart des héros et héroïnes de la foi ont déjà échoué. Tu t'emmènes, ça me fait du bien, moi. Ouf, enlevez-vous un peu de pression, là. Ils ont déjà échoué. Et il y a un homme dans la Bible, qu'on appelle Simon ou Pierre, on va lire le verset dans quelques instants, il va être dans une situation d'échec. Et ça dit, Luc chapitre 5, verset 1 à 5, c'est écrit, « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, à Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait à la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jette ton filet pour pêcher. » Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et là, ça a l'air d'une simple histoire de pêche. Et d'habitude, on pense que les histoires de pêche sont exagérées. Vous êtes d'accord? Les pêcheurs sont reconnus pour exagérer leur histoire. Mais je vous le dis, cette histoire s'est passée exactement comme ça, sans aucune exagération. Par contre, il faut juste se mettre un petit peu dans le contexte. Ça a l'air d'une simple histoire de pêche qui va se terminer d'une façon incroyable. Mais Pierre, il est là. Il a pêché toute la nuit. Pierre est un pêcheur. C'est son travail. C'est un colosse. Et là, il est assis, imaginez. Et là, il est fatigué. Il est sur le bord de sa barque. Il a serré ses filets. Il a lavé ses filets. Il cogne des clous. Il veut juste aller se coucher. Dites amen. Et là, Jésus va lui dire, « Hey, Pierre, passe-moi ta barque. » Et là, Pierre dit, hey, « Franchement, j'ai pas dormi de la nuit. » Mais parce que c'est Jésus, c'est le maître, il dit, « Ben, OK, prends la barque. » Et finalement, ils vont partir un petit peu sur le bord. Et là, Jésus va se mettre à enseigner. Et là, Pierre écoutait Jésus. Puis là, je ne sais pas si Pierre, il cognait des clous. Peut-être comme toi ce matin, je ne sais pas. Je ne suis pas Jésus, mais peut-être tu cognes des clous. Bref. Et Pierre, il est fatigué. Et là, il doit se dire, bon, une fois que Jésus a fait son affaire, ciao, bye, je m'en vais me coucher. Mais là, Jésus va lui donner un ordre. Pierre n'est plus maître de sa barque. Jésus va lui dire, maintenant, va en eau profonde et lance ton filet. Et là, ça a l'air simple. On est assis ici, dimanche 18 février. En fait, pêcher, c'est de la mer de Galilée ou le lac de Génézareth, c'est la même chose. Mais ce n'était pas une mer qui était facile. Et les pêcheurs qui travaillaient sur cette mer-là, c'était des hommes coriaces et ça demandait beaucoup de travail. Ce n'est pas la pêche aux petits poissons des chenaux, là. Hein? Et pour ceux qui nous écoutent en ligne, petits poissons des chenaux, là, c'est la pêche sur glace dans une petite cabane où tu prends un petit drink puis tu relaxes, là. Et Jésus est en train de dire à Pierre, qui est fatigué, retourne là. Et Pierre, il va dire, « Hey, c'est pas si simple que ça ce que tu me demandes. » Parce que retourner, quand tu pêches, là, il était tout mouillé avec l'eau, c'était en hiver, quand tu regardes le contexte, et il y avait froid, tout mouillé, d'essayer de pêcher, il avait été tout mouillé toute la nuit, puis il avait eu froid. Pêcher, il avait tout lavé, ses filets réparés, bonsoir, tout était fermé. Il fallait laver les filets, c'était compliqué pour pas qu'il y ait de la pourriture. Donc, tout son stock est fermé. Puis en plus, retourner au large, en eau profonde, ils n'ont pas des bateaux à moteur là, à cette époque-là. Ça veut dire qu'il faut que tu rames encore. Amen? Vous voyez que je veux venir, hein? Je vais le dire encore, c'est bon. Il faut que tu rames encore. Et en plus, Pierre connaît la pêche. Et tout le monde, les pêcheurs, savaient que la pêche, il fallait pêcher la nuit parce que les poissons ne voyaient pas le filet. Et qu'ils ont pêché toute la nuit et ils ont eu zéro poisson échec. Échec, pas de poisson, mais échec parce que c'est son salaire. Pas de poisson, pas d'argent. Échec. Comment il va pourvoir à sa famille? Et là, il sait très bien que ça va demander tous ces efforts-là pour, en plus, il est convaincu que le jour, j'attraperai pas de poisson. Mais Pierre a surmonté son échec. Pierre a surmonté son échec et il a vu le miraculeux. La première chose pour surmonter ton échec, ne te fie pas à tes pensées négatives et à ton raisonnement. Pierre aurait pu raisonner, puis dire « ça ne fait pas de sens, je suis fatigué, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas encore ». Est-ce que ça vous arrive? Mais Pierre, pourquoi il a surmonté son échec? C'est deuxièmement, il est allé en eau profonde. Il est allé là où il y avait la provision, là où il y avait les poissons. Si tu veux surmonter ton échec, tu dois aller en eau profonde avec Jésus. Tu dois aller en profondeur avec Jésus dans les lieux secrets. C'est dans les profondeurs avec Jésus que tu vas surmonter ton échec. C'est dans la profondeur avec Jésus où tu vas aller chercher la confiance. C'est dans la profondeur avec Jésus où tu vas aller chercher une parole qui va renouveler tes forces, une parole qui va te guérir, une parole qui va te donner une nouvelle stratégie. Parce que oui, Dieu parle encore aujourd'hui. Il donne encore une parole. Et pourquoi Pierre a pu le faire? Il a dit à Jésus, « J'y crois vraiment peut-être pas cette fois-ci, mais sur ta parole. » Jésus a une parole pour toi. Jésus a une parole pour toi dans ta situation. Ce n'est pas une question d'élite, de peu importe. Jésus parle à tout le monde aujourd'hui. Et tu vois, une parole cette année, en début d'année, je n'ai pas le temps de développer. J'ai fait un jeûne de Daniel pendant plusieurs jours. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai besoin d'une parole. J'ai besoin d'une parole. Parce que des fois, je vais être honnête avec vous, des fois on est en situation d'échec parce qu'ils ont fait des choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Et Dieu a la grâce pour nous pardonner. Mais des fois, on a besoin d'une parole pour continuer d'y croire. Et il y avait une situation dans ma vie, quelqu'un autour de moi qui s'était échec sur échec. Et je me disais, Seigneur, est-ce que je dois accepter la situation ou je dois continuer d'y croire? Savez-vous, il y a des fois où vous vous dites, c'est comme ça, Seigneur, aide-moi à accepter la situation. Puis il y a des fois où tu dis, non, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et le Seigneur, en ce début d'année, il m'a donné cette parole dans Ésaïe qui dit qu'il va faire toutes choses nouvelles. Il a écrit, il m'a dit sur mon cœur, et je vais vous la citer. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Peut-être c'est pour quelqu'un ce matin. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et sur cette parole, j'ai continué à jeter mon filet. Pierre a surmonté l'échec parce qu'il n'a pas écouté ses pensées négatives, ses raisonnements, sa fatigue de dire ça ne fonctionnera pas. Pierre a surmonté son échec parce qu'il est allé en nos profondes. Il y a eu une parole de Jésus sur ta parole et Pierre a continué, a recommencé à jeter le filet. Et vous savez la fin de l'histoire? Des centaines de poissons sont entrés dans le filet. Des centaines et des centaines, ils ont été surpris par tous ces poissons-là. Une pêche miraculeuse, non exagérée, parce que la Bible déclare. Et il y avait tellement de poissons que le texte nous dit que les filets se rompaient. Il est obligé de dire, « Hey, les gars, venez m'aider! » Ils sont venus avec des barques, ils ont mis les poissons dans les barques. Et la barque, il y avait tellement de poissons que la barque s'enfonçait. Je veux dire à quelqu'un ce matin, avec tout l'amour, la compassion, jette ton filet à nouveau. Si Dieu t'a donné une parole, si Dieu t'a donné une promesse, continue d'avancer dans la vie. Oublie ce qui est derrière toi et recommence à courir vers ce qui est devant toi. Et je vais conclure avec cette dernière illustration. Vous avez été tellement patients. En mars 2023, j'ai été invitée à une conférence qui s'appelle Shine à Paris, à MLK Grand Paris. Et j'étais oratrice là-bas avec mon amie Rachel Dufour. Et durant la dernière conférence que j'apportais la parole, le Seigneur m'avait donné une parole pour ces femmes-là. Et je recherche de plus en plus cette parole-là. Mais c'était « Dieu veut te faire enfanter ». Et là, j'ai commencé en riant. « Ha, ha, Dieu veut te faire enfanter spirituellement. » Mais avant, je disais « Ceux qui ont 50 ans et plus, voulez-vous enfanter encore? » Et toi, toutes les femmes disaient « Non, on ne veut pas, voyez-vous. » Et là, j'ai commencé à apporter, mais plus loin, sur Montréal, j'avais une parole dans mon cœur. Puis je dis, on va rigoler au début, mais Dieu veut vraiment guérir des femmes de la stérilité, des couples infertiles. Et là, quand j'ai commencé à prêcher, le Saint-Esprit dans mon cœur, il me disait, dis la parole, dis la parole. Et moi, j'avais tellement peur, parce que vous savez que pour un couple infertile, mois après mois, c'est comme une impression d'échec. Si c'est toi qui as l'infertilité, tu peux avoir l'impression que tu es un échec. Donc, je me dis, Seigneur, je ne veux pas créer de faux espoirs, de déceptions, mais je veux le dire. Et à la fin de cette conférence, de ce message-là, j'ai dit, Dieu veut guérir des couples, des femmes d'infertilité. Et les femmes, celles qui avaient besoin, ils ont mis la main sur leur cœur, puis j'ai dit, on va prier pour ces femmes-là. Je ne sais pas c'est qui. Et finalement, prie pour elle. Et après le message, il y a une femme qui est venue me voir. Puis elle m'a dit, Stéphanie, on est allé en fécondation in vitro des années. Puis ça n'a pas fonctionné. Échec, échec. Les hormones, échec, échec, échec. Il me reste une chance. Elle m'a dit, je ne sais pas. J'ai peur d'échouer. J'ai peur d'avoir de la peine. J'ai dit, on va prier. Puis je dis, on va faire confiance à Dieu. Et j'ai reçu en début de janvier. J'ai su, dans les mois qui ont suivi, qu'elle est allée en fécondation in vitro et tout ça. Et qu'après, le médecin avait dit, c'est presque impossible. Ça prendrait un miracle, madame. Et regardez ce que j'ai eu cette année. Le 9 janvier 2024, j'ai reçu la photo de Valentin, un bébé Shine. C'est mon plaisir. Il est né le 9 janvier 2024. Si vous faites le calcul, mars, avril, janvier tombe à 9 mois. Et là, j'étais tellement contente. Et là, je remerciais le Seigneur. Et là, je reçois un autre message récemment de Delphine. Elle dit, Stéphanie, moi, j'ai reçu la parole et je voulais avoir, on n'était pas capable d'avoir un enfant. Et puis, j'ai pris cette parole-là. On a prié. Et je voudrais te présenter Mia. Elle est née en janvier 2024. Ça, c'est Mia, un autre bébé Shine. Et comme si ce n'était pas assez, la pêche miraculeuse, comme si le Seigneur me disait, quand je donne une parole, je suis capable de l'accomplir encore aujourd'hui. Et là, récemment, j'avais partagé à table avec Annabelle qu'on avait eu deux bébés miracles. Il y a quelqu'un qui m'a écrit de France. J'aimerais rectifier la chose. Un email. Pas deux, mais trois. Mon mari et moi, on n'était pas capables d'avoir des enfants. Je perdais mes bébés avec des pertes de sang. Et maintenant, j'ai accouché de Nora le 12 janvier 2024. Alléluia! Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut, se lever ensemble? Juste levons-nous ensemble dans ce lieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Celui qui est le Dieu des miracles encore aujourd'hui. Celui qui est capable d'accomplir des miracles. Alléluia, Jésus. Alléluia, j'aimerais juste terminer en priant pour vous. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux juste quelques instants. Et je vais céder ma place à Pasteur Claude. Mais là où tu es, Seigneur Jésus, je veux te prier pour des hommes et des femmes dans ce lieu. Seigneur, je te prie pour certains ici qu'ils ont besoin de ta grâce et de ta force, Seigneur, de regarder vers l'avant. de ne pas regarder à ce qui est passé, à l'injustice, à la blessure et quelque chose qui fait mal et que toi, tu comprends. Mais aujourd'hui, tu donnes la force à quelqu'un, tu détournes le visage. Peut-être que cette personne pense que c'est insignifiant, mais tu lui révèles aujourd'hui que le pardon n'est pas insignifiant. Seigneur, que ce qu'elle a vécu, ce n'est pas insignifiant, mais que tu as des choses en réserve pour sa vie. Seigneur, viens donner consolation aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour la course de la vie. Chacun, chacune d'entre nous qui courons la course de la vie. Premièrement, redonne l'énergie, de l'endurance, Seigneur. Peut-être que certains d'entre nous, nous sommes face à des impossibilités, comme cette pierre sur la route. Seigneur, peut-être qu'on a essayé, on a prié, on a jeûné, on a recommencé et on est face à un échec. Seigneur, viens donner dans le cœur de mes amis aujourd'hui et aux gens qui sont devant leur écran. Viens donner la foi, Seigneur. Viens donner la force, comme tu as donné à Pierre, Seigneur, d'aller en eau profonde. Je te prie, Seigneur, que tu donnes une parole, dans ta parole dans les prochains jours, que peut-être à travers ce message, tu as donné une parole à quelqu'un et sur cette parole, elle va rejeter son filet, elle va jeter son filet à nouveau. Seigneur, je te dis merci parce que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui fait encore des pêches miraculeuses. Et je te prie pour des témoignages de filets remplis de bénédictions, Seigneur. Nous ne regardons pas au vide du filet, mais nous regardons à ta provision. Nous ne regardons pas à nos petitesses, mais nous regardons à ta grandeur. Parce que tu es un grand Dieu tout-puissant et miraculeux. Est-ce que tu l'as fait à Chêne, Seigneur? Tu peux le faire ici, dans ce lieu. Je te prie de guérir aussi dans ce lieu. Et je te dis merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ton onction qui console. C'est dans le puissant nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Sans mettre personne mal à l'aise, là où tu es, est-ce que tu as un problème, Pasteur Claude, que je prie, j'avais la même chose sur mon cœur. Tu luttes, peut-être ton couple est infertile, tu luttes avec des problèmes d'infertilité. Tu as essayé, recommencé, tu as l'impression que c'est un échec. Là où tu es, tu peux poser ta main sur ton cœur ou juste lever ta main en signe d'abandon. Et j'aimerais prier pour toi. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, ce que tu as fait, Seigneur, lors de cette conférence, tu peux le faire encore aujourd'hui. Je prie, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, que tu viennes guérir, éternel, guérir des cœurs, premièrement, des couples qui ont l'impression d'échouer, tu viens guérir, Seigneur. Tu viens donner la foi de jeter le filet à nouveau, mais tu guéris aussi physiquement, Seigneur. Je te réclame, Seigneur, des enfants, nouvelle vie cette année, éternel. Je m'appuie sur ta parole. Tu es le Dieu de la vie. Tu es celui qui donne la vie, Seigneur. Alors viens souffler. Tu connais les corps, tu connais toute situation. Seigneur, c'est avec vraiment petitesse, mais en ayant le regard sur ta grandeur, que je m'attends à toi. Et je te dis merci à l'avance pour tous ces beaux bébés qui vont nous naître cette année. Merci. Amen.